όχι μόνο το κουσμένο κατσόρο για σάλ. Και ρίξει το τάλματι
της. Όχι,
Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Dans un communiqué officiel publié en début du mois d'août courant par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, l'autorité des tutelles a rappelé aux entreprises privées le caractère obligatoire d'affiliation des agents à l'INSS, l'Institut National de Sécurité Sociale. Comment réagissez-vous face à ce rappel de l'autorité pour la bonne gestion de la sécurité sociale dans les entreprises privées? C'est la question du débat. Réagissez déjà. Notre standard est ouvert. Composez le 081 890 43 39. Vos critiques, questions et préoccupations, faites-les nous parvenir à notre courriel pa@radiocapi.net et déposez aussi vos commentaires sur notre page Facebook. C'était pour tout, Jean-Claude Fiala, Comtesse Matouba, réalise cette émission, J.R. Lungembo vous la présente et Ben Kabamba la supervise. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Par internet, pa@radiocapi.net.
Nous avons dans ce studio David Outou-Diema, qui est expert en viabilité de risques professionnels et de la pension. David, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui.
Voilà, la première question, qui sont soumis au régime de la sécurité sociale en République démocratique du Congo?
Ceux qui sont soumis au régime de sécurité sociale au Congo, ce sont les employeurs et les travailleurs, c'est-à-dire tous ceux qui émergent, tous ceux qui sont soumis au code du travail. Donc, les travailleurs et les employeurs soumis au code du travail doivent être inscrits à l'Institut national de sécurité sociale.
Les agents de l'État
Pour les agents de l'État, ça c'est une dérogation. Les agents de l'État ont une caisse à part. Parce qu'ils ne contribuent pas. Tandis que la sécurité sociale actuellement au Congo est contributive.
Alors comment ça se passe l'adhésion à la sécurité sociale en République démocratique du Congo?
Très bien. L'employeur doit s'inscrire, on lui donne le numéro et il déclare tous les travailleurs. Actuellement, on a commencé, on va donner un numéro national pour chaque travailleur. Avant, on donnait un numéro, mais maintenant, il y a un numéro, un numéro qui va être donné, que le ministre et la direction de l'INSS ont introduit il y a quelques jours. Donc, il faut que l'employeur déclare tous les travailleurs et chaque travailleur aura un numéro de l'INSS.
Alors, jusque-là, l'INSS a le monopole.
Correct.
Donc là, les monopoles, depuis 1961, ils travaillent pour recevoir les cotisations sociales.
Et payer les prestations sociales.
Donc, non seulement recevoir, mais aussi payer.
Payer.
Alors, comment ça se fait les cotes-parts entre les cotes-parts ouvrières et les cotes-parts patronales?
Actuellement, c'est 3,5 de salaire de base soumis à cotisation.
Ça, c'est la cote-part ouvrière.
Ouvrière. 3,5 pour le patronat. Le patronat donne aussi 1% pour les risques professionnels et maladies professionnelles. Donc, pratiquement, le patronat paye et cotise à 4,5.
À 4,5. Donc, on peut arrondir même à 5%, c'est la base imposable.
Voilà. Non, ils ne sont pas imposés.
Oui.
Les cotisations à l'INSS ou les paiements de cotisations ne sont pas imposés.
Alors, il se pose la question, que tire l'employeur de tels investissements dans les avantages sociaux?
Que tire l'employeur?
L'employeur, voilà, quand il investit comme ça, quand il doit payer...
Il doit payer, il est exonéré de partie de paiement, mais il ne paye pas la taxe sur les cotisations.
On ne paye pas la taxe.
Non, on ne paye pas la taxe.
Nous avons en ligne Confiance qui est à Kinshasa et Serge qui est à Lubumbashi. Confiance, vous avez l'honneur d'ouvrir le débat de ce jour. Bonjour Confiance.
Bien pour la parole et bonjour à l'invité. Et bonjour à tous les vocabistes de partout au monde. Allô?
Oui, allô Confiance, on vous écoute.
Oui, je disais que c'est bien de demander aux entreprises de s'affilier pour, hein, disons, d'affilier tous leurs travailleurs à l'INSS. Mais une grande question s'est toujours posée, c'est qu'est-ce que cela va faire? À quoi est-ce que cela est utile? Aussi longtemps que moi, je pense que avec le ministère de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, il serait mieux, parce que en réalité, la contribution sociale, comme on le dit, c'est une façon d'épargner. Donc, le travailleur épargne pour sa vie future, c'est-à-dire quand il sera plus en activité, il pourra bénéficier de ces paiements-là, de ces cotisations-là, de son épargne-là. Mais il se pose aussi un problème, comment est-ce que quelqu'un peut épargner aussi longtemps qu'il n'est pas bien payé? Moi, je pense que ce ministère devait d'abord commencer par payer les agents bien, pour qu'ils tirent une partie de leur salaire, de leur épargne, et arriver à épargner. Mais aussi, il y a aussi des questions qu'on se pose. C'est depuis 1961 que l'INSS existe. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui ont travaillé aussi depuis cette année-là, qui aujourd'hui, après avoir été retraités, n'ont jamais bénéficié de leur cotisation. Là, qu'est-ce qui explique tout ça? Est-ce que ce n'est pas juste un moyen de renflouer les caisses de l'État et de faire autre chose? Et puis, à part ça, qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là qu'on cotise? Il est vrai que l'INSS peut investir, dans la plupart des cas, investir dans l'immobilier. Mais est-ce que les bénéficiaires ont cet argent-là? Parce qu'on investit dans l'immobilier, mais on se rend compte que l'argent qu'on a pris des salaires des gens pour lesquels on a construit des maisons, ces maisons-là ne profitent plus à ces gens-là aujourd'hui. Ce sont d'autres personnes qui y habitent et qui ne payent pas le loyer. C'est très difficile. Parce que l'INSS prend l'argent des travailleurs, il investit dans les immeubles, dans d'autres actions, mais en retour, cet argent-là qui devait payer les retraités n'arrive pas entre les mains des retraités. Moi, je pense que la discipline devait d'abord commencer par là.
Oui, donc vous partagez l'avis selon lequel la cotisation sociale ou la sécurité sociale c'est le même que au paiement de la pension de retraité. Vous avez dit vous émettez des inquiétudes par rapport à la date de la création d'ailleurs de l'INSS, c'est depuis 61. Aujourd'hui, vous vous posez la question où va cet argent que récolte l'INSS auprès des employés. C'est vrai qu'ils investissent dans l'immobilier, mais dans bien des cas, les gens qui occupent ces maisons sont quasiment insolvables et l'INSS ne se retrouve pas pour aussi rendre compte à ces agents. Merci Confiance d'avoir appelé des Kinshasa. Serge, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Serge.
Bonjour.
Oui, comment allez-vous Serge?
Bon, pour moi, la réaction est négative du fait que l'INSS, ok, officiel ou machine, on a vécu avec des grands-parents qui ont travaillé à la Gécamine, qui contribuaient et tout. Mais après avoir eu les retraites, pour avoir l'argent donc de l'INSS, bon, c'était difficile. Il fallait suivre, et par après, ils sont même mourus sans pour autant toucher l'argent de l'INSS. Maintenant, pour moi, je me dis quoi? C'est juste une façon volée de les gens ou quoi, c'est ça. Parce que moi, ça m'insure.
Oui, donc vous...
Si on me demandait de contribuer, moi, je ne peux plus le faire parce que cet argent-là ne font qu'entrer dans des poches de particuliers.
Oui, Serge, d'abord, il faut répondre à une chose. La sécurité sociale est une garantie faite aux travailleurs et à sa famille contre certains risques sociaux tels que la maladie, l'accident, la maternité, la vieillesse, la perte de l'emploi et les décès. Donc, c'est un droit qui est lié, comme qui dirait, à une des branches de la législation sociale. Mais toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Je crois que c'est dans la gestion, dans la pratique, qu'il faudra un peu réfléchir pour voir comment la population ou les employés qui cotisent puissent quand même se retrouver. Merci Serge d'avoir appelé de Lubumbashi. Modeste, vous êtes à Calémie. Bonjour. Voilà, papy est à Lubumbashi. Bonjour, papy.
Bonjour. Je voulais participer pour la première fois à cette émission concernant le programme de l'INSS. Et dire que je travaille quelque part. Après avoir...
Voilà, décidément, on a un problème avec notre liaison à partir de Lubumbashi, avec les auditeurs qui sont à Lubumbashi. Donc, nous avons dans ce studio David Utudiema, qui est expert en viabilité des risques professionnels de la pension. Vous avez suivi quand même les réactions de Confiance et de Serge. Hein. Ils émettent quand même des inquiétudes par rapport à ces rappels. Quand on demande encore aux entreprises privées d'affilier leurs agents auprès de l'ISS, l'ISS qui existe depuis 61, mais dans la pratique, on se rend compte que ce qu'on cotise, ce n'est pas ce qu'on gagne, ce qu'on perçoit, hein, ce n'est pas au pourcentage de ce qu'on perçoit pendant la retraite ou pendant la pension.
Non. Ce qu'on reçoit pendant la retraite, ce n'est pas, attention, le salaire ou le salaire soumis à cotisation n'est pas le salaire global. Prenons un exemple de quelqu'un qui touche
$1,000. $1,000.
$1,000. Dans ces $1,000, on check, on enlève.
Le 3%, 3,5%.
Non, on enlève le logement, le transport, et puis ce qui reste, c'est ce qui est le logement et le transport, on enlève, parce que ce n'est pas soumis à cotisation. Donc la part qui reste, c'est cette part-là qu'on prend, 3,5 pour le travailleur et 3,5 pour l'employeur. Donc ce n'est pas quand vous êtes retraité, il faut enlever le transport et les indemnités de logement.
Oui, il y a un auditeur qui a émis l'inquiétude par rapport à ses parents qui ont travaillé à la GECAMINE. Et pour rentrer dans leurs droits, ce n'était pas facile.
Non.
Donc, le mécanisme, il est un peu lourd.
Non, le mécanisme n'est pas lourd. Le mécanisme, bon, je suis technicien, consultant, mais peut-être un directeur de l'INSS pourrait éventuellement donner plus de précisions que vous pouvez inviter plus tard. Mais nous disons que le mécanisme n'est pas très lourd. Il faut déclarer que vous êtes retraité. Quand vous êtes retraité, vous venez avec les bulletins des 60 derniers mois.
60 derniers mois.
60 derniers mois. Et on calcule maintenant, vous donnez, on calcule et on commence à vous payer votre rente qui est calculée mensuellement, mais payée chaque trimestre.
Donc, chaque trimestre.
Chaque trimestre. Mais peut-être qu'il y a un peu de confusion qu'on met. On avait un salaire important, mais dans ce salaire important, il y avait un grand montant qui revient aux indemnités de logement et de transport, étant donné que les indemnités de logement et le transport ne sont pas taxées, on ne paye pas les IPR, l'impôt sur le revenu, sur ça. Maintenant, l'ensemble des employeurs se sont convenus avec les travailleurs qu'on augmente fortement les indemnités qui ne sont pas soumises à l'impôt. Et c'est cette partie-là de salaire qui n'est pas soumis à l'impôt qui est pris en compte pour le calcul à l'INSS.
Oui, mais il semble qu'un travailleur qui subit la révocation dans une entreprise, sans qu'il soit embauché quelque part, l'INSS lui remet un brevet d'allocation unique, un brevet qui est un document qu'on remet à un bénéficiaire qui n'a pas accompli 60 mois d'assurance au courant des 40 derniers trimestres civils, concernant celui de l'ouverture des droits, ou à une veuve, mais qui n'a pas atteint l'âge de 50 ans à la date du décès de son mari. Donc l'INSS prend aussi en charge les veuves. Donc cette sécurité sociale s'étend même à la famille.
Oui, la sécurité sociale s'étend même à la famille. Mais il faut avouer que celui qui n'a pas atteint l'âge d'éligibilité ne peut pas obtenir la rente.
Le privilège, chaque
trimestre. On lui donne l'allocation unique et c'est fini. Mais celui qui atteint l'âge de retraite qui est éligible, eh bien, à partir du moment qu'il est retraité, il a une rente chaque trimestre.
Alors, au niveau du ministère de l'Emploi, Prévoyance sociale, on parle, c'est dans les temps, de la réforme de la sécurité sociale. Qu'en est-il?
Eh bien, la réforme de la sécurité sociale date depuis un certain nombre d'années, presque 30 ans. Mais en 1999, on a fait l'audit, on a fait l'état des lieux Et cet état des lieux a conduit à un certain nombre de points sur lesquels nous, maintenant, nous prenons ces points-là pour les actualiser, pour pouvoir faire la réforme. La réforme va concerner quoi? Augmentation actuellement sur 9 branches reconnues par le BIT, Convention 102, nous n'utilisons que 3. Et il y a encore 7, et il y a encore 6 qu'il faut ajouter. Nous devons faire l'extension des garanties. Bon, par exemple, on n'a pas, l'assurance maladie n'est pas encore instaurée, mais comme l'assurance maladie, les employeurs ont l'obligation de soigner leurs travailleurs, il n'y a pas de problème, mais l'assurance maladie devrait être l'assurance pour tout le monde. Pour tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire? Donc, la réforme va concerner l'augmentation de ceux qui doivent cotiser. Attention, actuellement, on estime que, contrairement à ce que peut-être l'opinion croit, c'est que les dernières statistiques publiées par la Banque centrale montrent qu'il y a environ 12 millions de gens qui travaillent dans le secteur informel et consorts, qui ne sont pas enregistrés. Donc, nous devons...
Donc, les gens-là seront maintenant concernés.
Les gens-là
la réforme seront concernés. Donc, vous allez étendre le champ des assujettis.
Oui, oui. On va étendre le champ des assujettis. Et en même temps, nous allons améliorer. Nous, on va améliorer.
Dans la maman qui vend le cacahuète, dans le coin de rue, les petits sucres, et on sera soumis à ce régime de sécurité sociale.
Non, pas... Oui, sera soumis à un régime de sécurité sociale d'une autre façon, pas comme un travailleur.
Voilà, on va venir à vous pour voir quelle sera l'approche que vous allez utiliser par rapport à ça. Amigo est à Kinshasa, Rajabou est à Kindou, mais tout en vous rappelant, chers auditeurs, que vous pouvez également nous faire parvenir vos réactions au 081-890-43-39.
Parole aux auditeurs.
Amigo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment réagissez-vous?
Oui, je salue tout d'abord l'invité et vous-même le journaliste.
Oui, merci.
Je voulais poser la question au journaliste en disant que je travaille dans une entreprise publique de la place. Ça fait 5 ans que je travaille, que je n'ai pas encore reçu mon numéro illimité. Qu'est-ce que vous réservez à nos employeurs pour ce telle date? Parce que nous, pour nous, il n'y a pas d'avenir. Parce qu'on n'a pas de numéro parce que 5 ans. Aujourd'hui, demain, je peux être licencié. Donc, je n'aurai pas bénéficié de mon numéro illimité. D'où il ne verse pas ma cotisation auprès de l'INSS. Qu'est-ce que vous préconisez pour ce telle date?
Voilà, merci Amigo. Donc, vous avez le souci de vous faire une idée sur. L'obtention de la carte d'immatriculation de l'INSS. C'est vrai que vous en avez déjà fait la demande par l'entremise de votre entreprise, j'imagine, Amigo. Voilà, donc on aura des précisions tout à l'heure avec notre invité, mais il faut retenir que l'article 6 de l'arrêté départemental numéro 0021 du 10 avril 78 stipule que tout employeur est tenu d'adresser pour chaque région où il occupe des travailleurs une demande d'affiliation à la direction régionale. Et l'employeur ayant amorcé cette démarche, l'INSS délivre à chaque travailleur une carte d'immatriculation. Donc vous avez droit à ça aussi. Rajabou, vous êtes à Kindou. Bonjour Rajabou.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour aux auditeurs de la radio de la paix.
Oui, comment réagissez-vous, Rajabou?
Oui, ma question était de savoir si un travailleur journalier, par exemple, peut aussi s'affilier à l'INSS. Et puis, je voudrais aussi savoir, quand on bénéficie, par exemple, du service de l'INSS, ça peut durer combien de temps? C'est-à-dire, l'INSS peut vous servir combien de temps? Ce sont là mes deux questions.
Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir appelé de Lubumbashi. David, comment réagissez-vous?
Eh bien, je commence par la dernière question. Mm-hmm. La durée, c'est jusqu'à la mort. Quand vous commencez à bénéficier de la rente, c'est jusqu'à la mort. J'ouvre la parenthèse que je ferme. Techniquement, quand on a instauré le régime, on croyait que les pensionnés allaient vivre seulement au maximum 15 ans. Mais malheureusement, actuellement, nous constatons qu'il y a des pensionnés qui vivent jusqu'à 30, 35 ans. Donc, quand nous allons faire, comme nous faisons la réforme, nous allons encore revoir cette façon d'agir. Nous devons tenir compte de l'espérance de vie des Congolais actuellement, même s'il n'y a pas encore eu de recensement, attendons que le recensement va venir. Donc, c'est jusqu'à la fin de la mort, jusqu'à votre mort, si vous êtes marié, votre épouse continuer jusqu'à sa mort. Bon, si vous avez des enfants, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 25 ans, eh bien, on stoppe la rente d'orphelin. Voilà, sous la durée. Eh bien, les journaliers, comme vous l'appelez, les journaliers n'ont pas de revenus fixes. Les journaliers ne sont pas reprises dans l'obligation, dans le code. Mais maintenant, quand nous faisons la réforme, nous allons essayer d'inclure tout le monde. Même s'il n'a pas, peut-être il n'aura pas le problème de retraite, comme on appelle quelqu'un qui est espérance avec, non, conscience. Avec parlé d'épargne, même s'il n'y a pas d'épargne, mais il peut bénéficier d'autres garanties, par exemple, les allocations familiales, par exemple, les soins de santé.
Mmh.
Hein? Mais le journalier peut bénéficier dans le cas où il est accidenté. Si le journalier est accidenté, qui est invalide permanent, à ce moment-là, il va venir à l'INSS et il va toucher sa pension pension d'invalidité.
Voilà, donc il en vaut aussi pour des travailleurs occasionnels les salariés à domicile. Les salariés à domicile.
Bon, les salariés à domicile, on ne les a pas encore identifiés. Mais nous croyons qu'il est souhaitable qu'on puisse...
Donc, vous n'avez pas pensé dans cette réforme que...
Si, la réforme va... Parce qu'au fond, la réforme, surtout en ce qui concerne les soins de santé, la réforme doit pousser jusqu'à venir à donner les soins de santé universels. Donc, on va, tout le monde doit être assuré pour les soins de santé.
Bon. Gabriel Kietel-Bumbashi, on va encore essayer, c'est en ligne. Bonjour, Gabriel.
Yeah.
Oui, Gabriel, comment réagissez-vous?
Bon, monsieur Gilles, quant à la thématique du jour, monsieur le ministre a bien fait de rappeler c'est l'obligation d'affilier les agents à l'INSS. Mais la situation du travail actuellement au pays est trop élémentaire, pas seulement dans les entreprises publiques, voire même les entreprises, pas seulement les entreprises privées, voire même les entreprises publiques. Ainsi, je crois qu'il serait mieux de commencer d'abord par faire respecter, demander à ce qu'on puisse respecter l'article 40 alinéa 2 du Code du travail qui prévoit qu'en cas d'engagement au jour le jour, si le travailleur a déjà accompli 22 journées de travail sur une période de 2 mois et sous peine de pénalité, récité conclu pour une durée indéterminée. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le journaliste, si vous remarquez bien, dans toute la République, les journaliers sont plus les engagés. Ça, c'est un autre problème encore qu'il faut soulever. Parce que tant qu'on aura des journaliers, on espère bien qu'il n'y aura pas assez de cotisations à l'INSS pour permettre à l'institution aussi de bien fonctionner. Voilà, c'est ça même ce qui occasionne, ce qui favorise les ruptures intempestives des contrats et occasionne le sacrifice de la sécurité sociale et même l'avenir du peuple. Voilà un peu ma préoccupation quant à ça.
Voilà, merci beaucoup Gabriel. Vous avez focalisé votre intervention autour de la problématique de la gestion de journaliers dans les entreprises. Et vous avez même souligné une chose, que actuellement l'effectif des journaliers dépasse de loin, en tout cas l'effectif de ceux qui sont réellement engagés ou qui travaillent avec un contrat monodiforme dans une entreprise. On verra ça avec notre invité, parce que par rapport à cette réforme, je crois que les journaliers auront quand même droit de citer dans cette réforme. Puisque vous êtes à Durba, dans la province orientale. Bonjour, Pichou.
Bonjour.
Voilà, voilà. Pichou, vous avez aussi votre voix.
Oui, bonjour, et bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Oui, allez-y, comment réagissez-vous?
Bon, pour moi, ici à Goupa, sur le problème de l'ISF, donc ici, le code du travail n'est pas d'abord respecté. Donc, on travaille, on dit 8 heures de travail. Ici, chez nous à Goupa, dans nos entreprises ou des sociétés de Goupa, vous allez voir que les gens travaillent parfois 12 heures. Bon, 15 heures. Donc, on ne sait pas comment on va respecter, comment on va en avoir traité tout ça. Donc, si on sait déjà qui travaille en dehors de leur travail comme ça, il arrive même à tomber des accidents, il arrive invalide pour la société. Comment? Donc, avec ça, vraiment, notre milieu est un peu enclavé pour. Bien sûr, ici, pour nous, d'abord, être placé à Ouachame, pour la société, c'est tout un problème. On n'accepte pas le code du travail. Et en dehors du code du travail, nos gens d'ici arrivent de tomber à des accidents et ils sont invalides pour la société, on le rejette. Et en même temps, si nous prenons nos gens d'ici, ils n'ont pas de contrat. Le contrat revient de rien que de 2 ou 3 mois, ou de 6 mois. C'est quel type de société qu'on fait avec le contrat de la marque? Pour moi, vraiment, c'est terrible ici à tous.
Voilà, donc merci. Donc, nous retenons que votre inquiétude tourne du côté du caractère même du contrat que signent les employés. Hein. Et vous avez insisté sur la durée même du contrat, le contrat à durée déterminée. Vous avez mis un accent également sur le non-respect du contrat entre les parties. Vous avez aussi des inquiétudes par rapport aux heures de travail et tous ces éléments hein, vous envoient à conclure qu'effectivement, bon, c'est difficile qu'on puisse en ce moment demander un effort supplémentaire aux employeurs de pouvoir réellement affilier leurs agents au niveau de l'INSS. Donc, c'est tout un problème. Alors, David, comment réagissez-vous?
Eh bien, là, je crois qu'il y a un petit problème, c'est que le code avait mis des garde-fous. Les garde-fous pour dénicher les travailleurs qui ne sont pas affiliés, ce sont les inspecteurs de travail ou les inspecteurs de sécurité sociale. Les garde-fous pour dénicher les employeurs qui ne payent pas leurs cotisations, c'est la délégation syndicale. Mais malheureusement, peut-être, ces deux structures ne tournent pas. Il faut peut-être les redynamiser pour qu'ils jouent leur rôle de voir que l'inspection du travail qui passe pour voir qu'un tel, travailleur a travaillé ici, on l'a arrêté depuis 3 mois et il doit bénéficier on doit se conformer à la législation, donc il faut qu'il signe un contrat à durée indéterminée, quelque chose comme ça. Mais les inspecteurs de travail doivent faire leur travail et les syndicalistes doivent faire leur travail pour le recouvrement des cotisations.
Mais il y a des employeurs qui, normalement, perçoivent ou retiennent à la source au niveau de l'entreprise, mais ces personnes n'arrivent pas à destination.
Mais c'est ça. La délégation syndicale de l'entreprise doit vérifier que les cotisations ont été versées. C'est ça. C'est que
il y a on ne peut pas être jugé parti.
Non, on a retenu. Il faut que ça arrive à la destination. Donc, il doit vérifier qu'on l'a retenu et que l'INSS a eu sa cotisation. La cotisation qu'on lui a retenue. Donc, il va de son intérêt. C'est comme ça, peut-être qu'il faut revoir les structures, les garde-fous qu'on a.
Oui, mais par rapport à la réforme qui va intervenir bientôt, est-ce que vous avez pensé à tous ces mécanismes-là pour contourner, pour éviter qu'il y ait un peu de dérapage ou de détournement peut-être de fonds?
Bon. Le mécanisme, je crois que ça se là dans la réforme de code du travail, mais en même temps, je crois que nous devons penser au problème de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Nous devons penser à ça pour que les cotisations puissent arriver à temps et que les cotisations viennent pour qu'on puisse constituer, comme a dit confiance est l'épargne. L'épargne qui concerne la partie pension. Tandis que les autres, c'est pour le décès et pour les accidents de travail.
Ben alors, l'employeur, comme nous l'avons dit, il y a un auditeur qui a posé la question sur la carte d'immatriculation qu'il doit obtenir auprès de l'INSS. Et là aussi, on a l'impression que la machine elle est très lourde pour que une demande faite puisse normalement avoir la réponse dans un temps record, dans un temps en temps réel.
Jusqu'à aujourd'hui, la délivrance des cartes de pour l'INSS, c'est le directeur de région ou le chef d'antenne qui signe. Donc, il n'y a pas, ce n'est pas le directeur général qui signe les C4-là ou l'administrateur, directeur technique ou les autorités, le comité de gestion. C'est décentralisé. Donc, je crois que le problème ne se posera pas. Maintenant qu'on va passer à l'étape suivante de cartes, de cartes biométriques, on a commencé à inaugurer. Je crois que ce problème va s'effacer petit à petit.
Voilà, Théodore est en Boujimaï. Théodore, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeu.
Et comment réagissez-vous?
Bon, avant de donner ma participation, je voulais poser une petite question à notre invité pour connaître la différence du bas distance des patients. La pension d'invalidité et l'assurance simple qu'on applique à l'assurance. Alors, à ce moment-là, je dois aussi dire que l'État devrait nécessairement encourager leurs partenaires commerciaux, fournisseurs de sous-traitants, à appliquer le principe de gérance et le principe de gérance du commerce conforme au principe directeur, faire signer les contrats de travail et améliorer les conditions de travail, respecter les droits des salariés. Et accepter qu'ils soient représentés par des syndicats. Parce que nous voyons aujourd'hui, il y a les syndicats partout dans les entreprises, mais ces syndicats, quand ils veulent lever les droits, ils sont licenciés. C'est le cas de comprendre que quand il y a présence des syndicats dans les entreprises, c'est là où il y aura vraiment de la clarté, il y aura de la transparence entre l'employé et l'employeur. Mais aujourd'hui, quand les syndicats veulent s'élever, c'est des licenciements, des problèmes. Dans toutes les entreprises privées aujourd'hui, les syndicats, ils n'existent que des noms. Alors moi, je préfère que l'État doit considérer les syndicats. Parce qu'il y a la présence des syndicats, je crois que l'UNICEF va bien avoir des cotisations et en retour, il va répondre aux besoins des employés. Voilà ce que j'avais comme ma contribution.
Merci beaucoup, Théodore. Ingénieur David, vous êtes avec nous en ligne depuis Bounia. Bonjour, David.
Ok, bonjour, Gilles. Bonjour à l'invité.
Et comment réagissez-vous?
Ok, ce que je voudrais se poser à l'invité, c'est, bon, je ne sais pas le calcul qu'il a fait de fait. Ici, il est prévient habituellement pour les 61 mois, donc avant la pension, avant la retraite. Alors, tu sais, la réalité de notre pays est que le travail, c'est quelque chose de ponctuel, donc ce n'est pas une contrat permanent. Pour mon cas, par exemple, je suis ingénieur agronome, je travaille dans une organisation et j'ai eu le numéro d'immatriculation, donc de l'INSS. Maintenant, je n'ai plus, donc après, l'organisation même, donc j'ai affecté à fermer et puis je n'ai plus d'emploi, je suis dans le privé. Comment moi qui aurais contribué pendant plus ou moins 5 ans, je n'aurais pas bénéficié de tout ce que j'ai contribué si j'en ai un autre emploi. Moi, je pense qu'il faut tellement totaliser le nombre que si quelqu'un fait la preuve de 60 mois de prestation et qu'il a le numéro de l'INSS, si bien le contrat, il est remboursé parce qu'il a contribué. Et puis ça, quand on coupe cet argent, ça fait très mal. Il faudrait quand même qu'on a bénéficié.
Voilà, merci David. Voilà, vous avez votre homonyme qui est dans ce studio. David, vous trouvez bien. Voilà. Comment réagissez-vous par rapport à la notion d'ingénieur?
Oui, ingénieur, votre numéro de carte vous soucie partout où vous travaillez. Si vous travaillez dans une entreprise privée, vous le relevez et votre employeur, votre nouveau employeur va verser vos cotisations sur ce numéro-là. Le numéro qu'on vous a donné là, le numéro continue. Ça, c'est un. De deux, en ce qui concerne, donc, votre numéro de carte continue. En ce qui concerne le problème de calcul, eh bien, on est en train de réfléchir. Parce qu'au fond, le problème de calcul et le problème d'éligibilité sont des problèmes gigantesques. Vous vous rappelez qu'en 1990, il y avait eu des casses partout, et on a dû, et en 93, on a dû recenser beaucoup d'agents.
Vous parlez du pillage de
1993. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été fermées. Mais maintenant, il y avait des gens qui ont peut-être cotisé pendant 40 ans, il restait peut-être 2 ans ou 3 ans pour qu'il soit éligible, mais on a pillé son entreprise. Et cet ensemble de dossiers sont pendant maintenant au niveau du ministère. Alors, il faut résoudre ce problème. Et je crois que
il y a des problèmes à résoudre. Maintenant que le ministère demande encore à d'autres entreprises de venir, ce sera des dossiers.
Parce que c'est la solidarité. Si les entreprises viennent, si les autres viennent, nous aurons plus de cotisations pour pouvoir indemniser ces autres. Les autres là, on n'aura plus d'argent. Hein? Donc, c'est la solidarité. Hein? C'est le droit des grands hommes.
Mais le Gécamine avait contribué à l'époque, ben, à son tour, les agents sortiront.
Bon, je doute, mais je ne sais pas. Je crois qu'on va,
Nous avons vu tout à l'heure l'intervention de ses parents.
Mais parce qu'au fond, il faut qu'on regarde la direction
de l'INSS
à l'INSS, à Lubumbashi. Si l'agent qui a été mis à congé technique était éligible ou pas.
Quand vous parlez d'éligibilité, c'est par rapport à la durée du travail, du contrat.
Pour pouvoir prétendre à bénéficier des prestations de pension, il faut avoir 65 ans d'âge. Première condition. Si vous avez 64, vous n'êtes pas éligible. Si vous avez 60, vous n'êtes pas éligible. Il faut attendre que vous ayez atteint l'âge de 65 ans. Première condition. Deuxième condition, il faut avoir travaillé, il faut avoir cotisé pendant un certain nombre, une certaine durée. Ça, c'est la deuxième condition.
Le minimum?
Le minimum, en principe, actuellement, je crois que c'est 15 ans qu'on tient. Mais on regarde, la première chose, est-ce que vous avez travaillé avant la retraite, vous étiez en fonction. Avant la retraite, vous étiez en fonction. C'est ça, c'est compliqué. Mais tout ça, je crois qu'il est souhaitable qu'on puisse regarder. Et je crois que peut-être
au niveau de la réforme,
et comme les auditeurs commencent à s'intéresser à ce problème, il est souhaitable que peut-être le ministère...
Mais parce que c'est toute une garantie, Et comme on l'a dit, la sécurité sociale, c'est un problème qui est très important. C'est pourquoi les auditeurs s'intéressent à ça. Il y a Blaise, d'ailleurs, qui est à Kinshasa. Bonjour, Blaise.
Allô, bonjour.
Oui, alors Blaise, comment réagissez-vous?
Moi, ma réagissement, je dirais d'abord merci au monsieur le ministre d'avoir soutenu, parce que là où je travaillais en tant que chauffeur, je suis au moins 8 ans, 7 ans et demi. On était engagé, mais on n'avait pas eu ce calcul, c'est une erreur qu'on parle d'une et tout. Mais c'est après, depuis le mois passé, qu'on nous a venu cela. Donc, ça nous a même mis le mandat, mais depuis tout ce temps-là, nous étions engagés, mais pourquoi nous n'avons pas fait le calcul? Notre chef lui a dit non, il y a un problème de votre ministre, c'était venir, c'est méchant. Bon. Moi, je dirais que ce problème-là concerne tout le monde.
Voilà, donc, Blaise, quand vous parlez, vous avez quand même obtenu votre carte. C'est ça. Vous avez finalement obtenu votre carte.
Alors, je n'ai pas compris.
J'ai dit finalement, vous avez obtenu votre carte.
Oui, j'ai ma carte avec moi.
Voilà, donc maintenant, on restait quand même quelque chose sur votre salaire.
Oui, on restait. Mais maintenant, je connais parce que c'est qu'on restait, c'est un peu beaucoup.
On restait combien à peu près?
De mon salaire, on restait 1 500 francs chaque mois.
1 500 francs chaque mois. Voilà, donc c'est pratiquement ce que vous cotisez à l'INSS, et puis bon, 1500 à la retraite, je crois que Blaise pourrait quand même se retrouver. Delphin à Lumbashi, bonjour Delphin.
Oui, bonjour.
Et comment réagissez-vous, Delphin?
Et bon, d'abord, je salue notre invité. Et puis, j'aimerais aussi demander à notre invité, est-ce que pour l'INSS, c'est ma société qui est obligée de s'assurer, ou bien aussi c'est les travailleurs? Parce que aussi, ça peut être particulier, parce que si les travailleurs refusent et ne plus retrancher à son salaire, et maintenant, quelle serait la réaction de l'agent de l'INSS? Et puis aussi, d'autre part, il y a d'autres salaires qui, vraiment, qui est insupportable pour les retranchés. Est-ce que aussi l'INSS se prend en charge de discuter avec les gens à qui il tient avec eux cette convention d'augmenter un peu les salaires? Peut-être vraiment, par exemple, un effet qui touche au moins 80 000 francs. Est-ce que l'INSS aussi discute sur ce genre de choses? Et ceux qui se retrouvent même dans qui travaillent aux établissements, il y a d'autres personnes qui ne sont pas assurées à l'INSS. Est-ce que tout ce parcours à l'INSS vraiment se tient en charge et responsable?
Voilà, merci. Docteur Marcel, vous êtes dans le Bandundu. Bonjour, docteur Marcel.
Oui, bonjour, monsieur Gilles.
Oui, comment réagissez-vous?
Bon, en fait, c'est quand même bien. Cette histoire d'assurance à l'INSS, vous voyez, donc c'est ça le primordial des choses qu'on peut faire pour la société congolaise. Mais une grande question se pose au niveau du revenu de ces travailleurs-là du Congo. Vous savez, ces travailleurs sont fatigués parce qu'ils sont mal payés avec des salaires maudits. Comment expliquez-vous de reprocher les histoires des gens médiocres par rapport au salaire? Alors, dis-moi un peu, même si on s'affilie aujourd'hui avec ces histoires de l'INSS, c'est bon, mais c'est quoi le revenu des travailleurs congolais? C'est quoi? Parce que même si se retrouve demain ou après-demain, à un temps, avec un âge déjà avancé, qui est déjà autorisé à être retraité, mais il va toujours continuer la souffrance. Donc, moi, je crois que la filiation à l'INSS ne garantit pas la vie à ces travailleurs qui travaillent durement pour remporter beaucoup d'argent au trésor public. Et à leur tour, le gouvernement ne sent plus leur remettre les histoires en cause. C'est ça, une chose qui est lamentable pour les travailleurs congolais. Donc.
Voilà, merci. Merci, docteur.
Non. Ok, mais cette idée est bonne, mais bon. On est désolé par rapport à ce que le gouvernement ne sait pas respecter les engagements par rapport au travail congolais.
Merci beaucoup, docteur Marcel, d'avoir donné ces inquiétudes. Alexis, vous êtes à Anvers. Bonjour, Alexis.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Anvers, en Belgique. Comment réagissez-vous, Alexis?
Oui, voilà. Mais justement, moi, j'ai une entreprise à Gemena, une ONG que j'ai créée à Gemena. Et depuis l'année passée, je contribue pour mes travailleurs à l'INSS, mais ils n'ont jamais reçu la carte. Bon, ça me surprend que les autres puissent déjà en avoir, mais je pense que l'administration de l'INSS est trop lourde. Et ce que le conseiller est en train de parler, il voit plutôt qu'il ça, il voit pas vraiment l'ensemble des régions, parce que moi, je suis découragé. Depuis l'année passée, je fais que contribuer. Mais mes travailleurs ne reçoivent pas les cartes. Même moi-même, je n'ai pas la carte d'affiliation. Donc, c'est un peu décourageant. L'idée est bonne, mais concrètement, ils n'arrivent pas vraiment à faire réaliser.
leurs idées. Merci beaucoup, Alexis. Nous rappelons que vous avez appelé de l'Anvers, hein, l'Anvers, en Belgique. Oui. Voilà, donc c'est un problème d'affiliation, comme vous l'avez dit, mais on sait que c'est 8 jours après qu'on soit embauché, hein, que l'employeur doit déclarer l'agent ou l'affilié à l'INSS. Et je crois que la machine, comme nous l'avons dit, si elle n'est pas très lourde, je crois dans 48 ou à une semaine, après que les inspecteurs aient fait les enquêtes, hein, je crois que l'employé doit déjà être en possession d'une carte d'immatriculation. Alors David, quel attendez-vous, Alex notamment, qui revient encore sur cette question d'adhésion, d'affiliation et l'obtention de la carte?
Alex, le problème de comme votre entreprise à Guémena, je crois que c'est au maximum le directeur de région qui est à Bandaka, qui signe. Peut-être que cette signature peut être déléguée parce qu'il n'y a pas de problème, il peut signer un grand nombre et puis on distribue. Mais de toutes les façons, le problème a été décentralisé. Les signatures, les cartes ne sont plus signées à Kinshasa comme dans le temps. Ça, c'est un. Deux, on peut vous tranquilliser, votre numéro d'affiliation, ça on va poser la question et vos remarques, je vais les transmettre à qui de droit, à la direction. Je n'ai pas répondu à un certain nombre de questions. Oui, allez-y. Première question de M. Théodore Mbujimaï. Il a posé la question entre pension d'invalidité et pension de la SONAS et consorts. Mais la pension d'invalidité, c'est quand on est invalide, permanent et pour toujours. Alors, on donne la pension. Quand vous avez la pension d'invalidité et que vous n'avez pas 65 ans, dès que vous avez 65 ans, cette pension d'invalidité se convertit en pension normale. OK? En ce qui concerne la différence entre la pension de l'INSS et éventuellement la pension que vous pouvez souscrire auprès de la SONAS, ça c'est une pension complémentaire à la loi. La loi exige à ce que tout travailleur soit enregistré à l'INSS, affilié, et qu'il ait, quand il a 65 ans, qu'il ait sa pension. Maintenant, il y a des entreprises qui ont souscrit des polices d'assurance pour l'assurance complémentaire, et on vous donne la pour garantie complémentaire, et on vous donne la pension complémentaire qui est. Même l'individu peut prendre son assurance auprès de la SONAS et avoir, à l'âge de 65 ans, avoir sa pension, et cette pension, il peut le prendre en capital ou converti en rente mensuelle ou trimestrielle, comme on veut. Donc, voilà la question que je n'avais pas répondu. Il y a la question que je n'ai pas répondu de M. Delphin à Lubumbashi. Bien, il y a le problème de revenus. La loi a arrangé de façon à ce que le pensionné touche la moitié des SMIC. Si votre pension, on calcule, quand vous êtes éligible, on calcule que votre pension est en dessous de la moitié de SMIC, on vous donne la moitié de SMIC. On vous donne la moitié de SMIC.
SMIC qui est le salaire minimum garanti.
Oui, minimum garanti. Interprofessionnel. Donc, le SMIC. Maintenant, là, le problème qu'il faut voir, c'est que nous sommes en partie dans le régime où quand vous avez eu votre brevet, c'est le montant de votre brevet qui demeure, qu'on vous donne.
Brevet d'allocation.
Le brevet, quand vous êtes pensionné, okay, on vous donne votre brevet, okay, et c'est le montant qui est resté sur le brevet que vous allez toucher éternellement. Non, pas éternellement. Quand ce montant-là est inférieur à la moitié de SMIC, vous rentrez dans le SMIC, la moitié de SMIC. Hein? Donc, le législateur a été généreux et a été correct, même si des voix qui s'élèvent pour dire que cette façon de calculer n'est pas correcte. Bien. Je n'avais pas répondu
à la question de Papy, Picou et Gabriel. Modeste aussi, il y a un
tel. Oui, il a Pichou a parlé des heures de travail. Oui, ça c'est le travail réellement des inspecteurs de travail et les inspecteurs de sécurité sociale. Je crois que peut-être il faut que le ministre qui a
d'ailleurs fait ce communiqué a demandé à ce que les entreprises privées puissent obligatoirement affilier leurs agents.
Oui, mais il doit faire le suivi. Oui, il doit donner les moyens aux inspecteurs pour que les inspecteurs puissent faire ce travail-là de contrôle. Parce que ça ne sert à rien s'il n'y a pas de contrôle. Ok? Bon. En ce qui concerne les invalidités, nous avons dit que ça, le respect des heures de travail, c'est l'inspecteur de travail. Et aussi le syndicat, parce qu'au fond, s'il n'y a pas de syndicat, eh bien, ça, c'est autre chose. Mais s'il y a un syndicat dans l'entreprise, le syndicat doit contrôler les heures de travail de façon à ce que si quelqu'un travaille plus que les heures de travail, qu'on lui donne les heures supplémentaires. Donc, voilà, en peu de mots. Et il y a un qui a posé la question, par exemple, à la Gécamine, Serge, peut-être n'a pas,
oui, c'est n'est pas
allé de Lubumbashi. Là aussi, il y a, c'est seul à Lubumbashi, dans la province du Katanga, où il y a le système d'allocation familiale, qui est géré par la sécurité sociale. Ailleurs, ça n'existe pas. Bien, le législateur de 61 avait dit à titre expérimental au Katanga et qu'on allait descendre.
Mais
50 ans après, on va constater qu'on n'a pas étendu. Bon, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est encore une matière sur une réforme.
Oui,
c'est une autre matière. Voilà.
Voilà, en peu de mots, je crois que je n'ai pas oublié.
Vous avez déjà fait le tour de tous les auditeurs. On va prendre une dernière série des auditeurs, mais tout en rappelant que ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, ils peuvent également composer le 081-890-63-15 pour les appels.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Et si vous nous rejoignez, bienvenue. Demouké, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, M. Gilles.
Et comment réagissez-vous?
Oui, ma préoccupation, c'est que beaucoup d'entrepreneurs privés d'ici n'ont pas fait inscrire leurs travailleurs à l'INSS. Mais fois, on voit toujours la présence des agents de l'INSS. Après, ils reviennent, ils envoient, après, ils rentrent. Bon, on ne sait pas, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas la clarté. Du coup, c'est quoi? Une chose qui casse, ça, c'est la corruption. La corruption, s'il y a des agents de l'INSS qui arrivent, on peut les corrompre avec quelque chose, et puis il y a des rentrées de ces. Comment arrêter de rentrer sur les travailleurs de ce contrat?
Voilà, donc vous évoquez le problème.
Il faut d'abord maîtriser d'abord et voir d'abord les dirigeants, les inspecteurs du travail, les tout comme ça. Si il y a revoir ça, de quoi ça va améliorer?
Merci beaucoup, Demouké. Donc, vous insistez sur l'aspect corruption. David, que répondez-vous à Demouké? Parce que là, il faudrait quand même que le mécanisme de contrôle soit garanti, surtout du côté des inspecteurs qui travaillent, ils doivent se mettre à l'abri de la corruption.
Ben, évidemment, ça dépend de l'éducation de chacun et ça dépend du patriotisme de chacun. Il est souhaitable que chacun puisse faire son travail en âme et conscience. Parce que, supposons que vous êtes chef d'entreprise. Le gars de l'INSS vient vous le corrompre. L'inspecteur vient vous le corrompre. Chaque mois. Le montant que vous mettez à la corruption aurait pu être payé et vous allez constater, si vous avez une bonne comptabilité, vous allez constater que vous allez payer plus que ce que l'INSS vous demande. Si vous avez une bonne comptabilité. Parce que ces gens-là changent, et si vous voulez, vous allez payer plus que ce qu'on vous demande de payer. Donc, ça ne sert à rien. Donc, ça ne sert à rien, d'autant plus que vous serez rattrapé un jour si un travailleur tombe malade ou un travailleur est accidenté et qu'il a une invalidité permanente et qu'on trouve que vous ne l'avez pas assuré, ne le connaissant pas, ne va pas intervenir. Donc, vous allez le prendre à charge parce qu'au fond, à ce moment-là, la famille ou l'employé ou le travailleur va accuser l'employeur à la justice, il va obtenir gain de cause et la rente qui devait être payée par l'INSS, l'entreprise va être contrainte de le payer cette rente.
Donc, ça sert à rien de contourner les lois et consorts.
Il faut éviter la corruption.
Il faut éviter la corruption parce que, à la fin des comptes, vous allez payer plus.
Donc, nous retenons M. David, puisque en fait, s'affilier à l'INSS, gorge quand même quelques avantages. Hein, donc, il y a quand même beaucoup d'avantages que
oui,
les employés doivent.
Nous avons dit que l'employeur, la partie qu'il verse à l'INSS n'est pas taxable par le fisc pour dans ses frais généraux. Donc, on soustrait la partie de qu'il a versée à l'INSS pour pouvoir connaître quelle est la partie des bénéfices qu'il doit payer, qu'on va taxer. Donc, cette partie-là est exonérée.
Voilà. Merci, M. David. Nous rappelons que vous êtes expert en viabilité de risques professionnels et de la pension. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous également d'avoir participé à ces débats. Nous disons merci à Jean-Claude Fiala qui a assuré la mise en onde de cette émission. Tiki Poutou et Comtesse Matouba l'ont réalisé et Gilles Lunguebo vous l'a présenté sous la supervision de Ben Kabamba. Écoutez cette émission sur www.radiocapit.com. Le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, a déclaré lundi dernier que la solution de la guerre dans l'Est de la RDC passe par la réforme de son armée. Parole aux auditeurs en parle demain. Qu'attendez-vous par réforme de l'armée et que proposez-vous? C'est la question du débat. Inscrivez-vous déjà et faites-nous parvenir à l'adresse pa@radiocapi.net vos commentaires et préoccupations. Vous pouvez également les poster sur la page Facebook de Paroles aux auditeurs. À très bientôt.